OK, on va commencer. Merci d'être venu à cette dernière rencontre des lectures du CRIL qu'organisait la librairie Olivieri. Et je remercie toujours évidemment Rina Olivieri de nous accueillir toujours avec autant de bonne grâce pour ces lectures. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Melika Abdelmoumen. Je ne ferai pas semblant de ne pas la connaître. Je ne passerai pas au vous de circonstance. Maintenant, on est déjà... On remonte à quelques années. Melika a fait une thèse qu'elle va soutenir très bientôt sur Dubrovski, l'autofiction. Et parallèlement, évidemment, elle a fait son œuvre littéraire où l'autofiction joue un certain rôle, d'où le titre de notre rencontre, la rencontre qu'elle a accepté de faire aujourd'hui. L'autofiction jouée, déjouée, rejouée. On verra un peu quel sens donner à ces termes-là. Alors, je vous la présente brièvement. Melika, elle est née au Québec. Au Saguenay, je ne m'abuse,
non,
si je me souviens bien.
Oui, à
Hein?
Chicoutimi.
Oups, oh, parce que
Non.
Chicoutimi, ben, la
J'allais dire
Saguenay.
non à Montréal parce que dans ma tête, je suis montréalaise, mais.
D'une mère québécoise, d'un père tunisien, et maintenant elle vit à Lyon, en France. Donc elle a tout un parcours déjà là de vie assez intéressant. Et elle a publié jusqu'à ce jour 5 romans. Plus quelques nouvelles, hein, des nouvelles en revue et dans des ouvrages collectifs. Le premier roman, Chair d'assaut, est paru à la maison d'édition Trait d'Union. Le deux est un roman au jeu. Je n'irai pas plus loin que de le qualifier au jeu pour le moment. On y reviendra si tu veux bien, Melika. Ensuite, suivi d'un drôle de roman, un roman science-fiction, d'anticipation, je suis pas sûr comment on le caractériserait, au moment où elle est passée à
Ah
point de
oui,
fuite.
science-fiction.
D'autofriction. Alors là, on est
En
déjà
science-fiction,
en
l'autofiction, ça c'est
science-fiction, donc la
Dubrovski.
thèse est pas loin là aussi. Ça aussi, on pourrait y revenir. Intitulé Lima Destroy et Robinette Spa.
D'ailleurs, la créatrice du nom Robinette Spa est dans la salle en ce
Voilà.
moment.
Il devait y avoir une suite. Il y avait une suite annoncée, mais comment
Oui.
ça arrive parfois, on annonce une suite et la suite,
Mais
enfin,
non, mais ben, il y a eu la vie qui est arrivée.
on verra. Et toujours chez Point de Fuite, Le dégoût du bonheur, qui est probablement le roman qui est le plus près de l'autofiction. Hein. Ça, on va en discuter tantôt. Et ensuite, après son passage chez Marchand de Feuilles, elle a publié deux autres romans, Alia, qui joue avec la catégorie de l'autofiction, ou qui la déjoue, on verra ça aussi. Et le plus récent, Victoria et le Vagabond. Donc, la première question que je lui poserais, c'est un peu de... Bon, j'ai donné seulement les titres, mais peux-tu, Mélika, nous expliquer un peu ta venue à l'écriture parallèlement à tes études, à la thèse, à ce qui t'intéressait du côté de Dubrovski, l'autofiction, et ton propre cheminement?
Ben, la venue à l'écriture, j'ai du mal à m'en souvenir parce qu'il y a une sorte de légende familiale qui renvoie à un souvenir. Peut-être que ma mère qui est dans la salle pourra confirmer ou infirmer. Mais j'inventais des histoires que mon père ou ma mère transcrivait, puis je faisais les dessins, puis on faisait des photocopies avec ma petite sœur, si je me rappelle bien, mais toute petite, avant même de savoir écrire. Donc ça remonte à très loin en fait. Puis après, ben, il y a eu les classiques essais romantico-dramatiques au cégep, de nouvelles, d'épanchements, tout ça, là, toutes ces choses-là. Mais la vraie, entre guillemets, la vraie venue à l'écriture, le moment où j'ai décidé que je prenais mon courage à deux mains, que je soumettais quelque chose, un texte à un jury ou à des lecteurs plus sérieux, entre guillemets, c'était, je crois, dans un concours de nouvelles au département de l'Université de Montréal où j'avais eu une espèce de prix. Du genre, vous n'êtes pas gagnante, mais vous êtes originale. Ça allait beaucoup marquer ma vie par la suite. Je ne le savais pas encore. Et donc, c'était comme une espèce de prix d'antichambre, en tout cas. Bref, et donc, j'avais pris ça pour un encouragement quand même. Et puis, c'est en fait grâce à une bourse. J'avais eu une bourse du Conseil des arts du Canada pour écrire un premier roman parce que j'avais publié une nouvelle. Avant. Puis c'est là ben, que je me suis attaquée au dégoût du bonheur. Ah non, pas au dégoût du bonheur, à Chair d'assaut, pardon. Et là, je cherchais ni à faire l'autofiction. Je savais pas ce que c'était que l'autofiction. Je me suis pas demandé si c'était au je ou au il, si on allait penser que c'était moi ou pas. Je me posais pas du tout ces questions-là à ce moment-là. Ce qui me préoccupait surtout, c'était de rendre un hommage à Hubert Racquin. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit ce roman-là et il s'est passé une coïncidence assez extraordinaire. C'est que un ami de mes parents m'a parlé d'une nouvelle maison d'édition qui avait été créée, m'a dit peut-être que tu pourrais leur soumettre ce premier manuscrit. Et c'est cette maison-là, la personne qui allait faire la direction littéraire et l'édition de mon manuscrit était la compagne d'Hubert Aquin. Donc, on a travaillé ensemble sur le manuscrit qui était un hommage. Donc c'est ça. Donc on a travaillé ensemble pendant longtemps avec André. Et puis donc ça a commencé comme ça. Pour la même chose avec Lima Destroy et Robin Etspa, je me suis pas spécialement posé la question de la réception, à quel genre littéraire ça appartenait, quelles conséquences ça allait avoir sur ma vie, est-ce que les gens allaient les conclusions voyeuristes que les gens allaient tirer ou pas, tout ça. Puis bon, ce roman-là a eu moins de... C'est-à-dire que Chair d'assaut avait eu un prix, donc ça avait un peu plus fait parler. Le deuxième a eu des critiques plus mitigées.
Le prix que Chair d'assaut a eu?
Oui, c'était le prix du premier roman du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
OK.
Si je me... C'est un prix à BTB Consolidated.
Ça ah oui, BTB Consolidated.
Je me rappelle bien.
D'accord.
Mais je pense qu'il y avait... C'est très drôle parce qu'il y avait 6 romans en lice, dont 5 finalistes, puis un gagnant. Parce que c'était très compliqué parce qu'il fallait absolument être natif du Saguenay pour être dans les finalistes. Donc, dans la fournée de cette année-là, on n'était que 5 ou 6, je pense. Donc, c'était pas une grosse compétition. Mais bon. Donc, c'est ça. Et puis, ben, c'est après, j'ai donc écrit Le dégoût du bonheur, où là non plus, je savais pas ce que c'était que l'autofiction. J'ai écrit parce que j'avais envie d'écrire comme ça. Il y avait un jeu entre le « je » et la troisième personne, où la narratrice avait mes initiales, ben, le personnage avait mes initiales, mais c'était à la fois moi et pas moi. Il y avait, oui, un désir de d'épanchement, mais je pense qu'il y en a même quand on écrit de la fiction pure ou de la science-fiction, donc ça, bon. Enfin, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Et puis, là, le livre est sorti, il y a eu beaucoup de critiques positives, mais je me suis aussi un peu cassée la gueule, parce qu'il y a des personnes qui ont pensé que c'était vraiment de la littérature de grattage de nombril. En tout cas, maintenant que j'ai fait une thèse sur l'autofiction, c'est un sujet qui, en tout cas, qui a occupé beaucoup de place dans ma vie, disons. Donc ça a été très difficile. Et c'est à partir de ce moment-là, je dirais, que j'ai commencé, en écrivant, à avoir conscience de l'après et à beaucoup passer de temps à prévoir les attaques qui, des fois, sont jamais venues, mais d'autres fois, sont venues encore beaucoup plus... violente que ce que j'avais imaginé dans mes pires cauchemars. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une deuxième phase qui a commencé où j'écrivais vraiment dans la conscience de ce qui... de comment ça pouvait être reçu, classé, catégorisé, comment moi je pouvais l'être aussi. Ouais. Puis donc, Alia était une espèce de roman très bizarre. En tout cas, je pense que tu voulais me poser plus de questions plus tard, donc je vais aller assez rapidement, mais c'était comme une espèce de réaction anticipée à une réception qui n'avait pas encore lieu. Alia. Parce que c'est un pastiche, une fiction sur l'autofiction, en gros. Puis après, bon, bah, y a eu donc Victoria et le vagabond, qui là, en apparence, se détache beaucoup des autres, mais en fait pas tant que ça, mais on en parlera peut-être aussi après, où là, j'ai voulu carrément m'éloigner de l'autofiction, officiellement, parce que moi, je pense que ces catégories-là sont j'y crois de moins en moins, personnellement, à ces catégories-là. Et là, ben, encore une fois, il y avait beaucoup le souci de comment ça allait se passer après. Mais à chaque fois, j'essayais, après Le dégoût du bonheur, c'est le travail d'essayer d'écrire ce que j'avais envie d'écrire et d'arrêter de penser à ces choses-là. Mais c'est très, très difficile. Puis je pense qu'à chaque fois, c'est un travail qu'on recommence chaque fois. Là, j'en ai commencé un autre, puis c'est vraiment... Bon, là, il y a un détachement que j'ai l'impression que j'avais pas avec les autres, mais je pense que je dis ça chaque fois. Donc, je sais pas. Donc, en gros, ça a été un long parcours avec toujours une négociation avec la réception et avec les catégories littéraires. Je pense que c'est peut-être une déformation d'étudiante de lettres ou d'universitaire. Je sais pas.
Ouais, mais en même temps, tu dis, bon, le premier roman, Chair d'assaut, le titre, c'est pas aquinien parce qu'il y a un jeu de mots dès le titre et donc on pourrait penser peut-être plus à du charme ou autre chose, mais en même temps, tu dis que c'était un hommage à Hubert Aquin. Ouais. Et une chose qui est toujours constante chez Aquin, c'est justement de prévoir la réception du lecteur et de le décevoir. Oui. De tenter de décevoir. Est-ce que donc il y avait déjà ça?
Non, parce que c'est drôle, c'est vrai, tu as tout à fait raison, mais je pense qu'à l'époque, c'est pas cet aspect-là Je pense que j'étais tellement dans une espèce de... La lecture que je faisais de ces œuvres, c'était comme presque une communion. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais s'il voulait me déjouer, il a sans doute réussi. Ou s'il voulait déjouer ses lecteurs, ça a marché avec moi. Non, non, mais j'avoue que je ne l'ai pas abordé comme ça. En même temps, c'est lointain maintenant. Hein, mais je me rappelle que c'était plus un travail sur la structure et sur certains thèmes que sur le rapport au lecteur. Je pense que j'étais tellement prise dans mon rapport à lui que je ne me suis pas posé ces questions-là. Puis peut-être que ça aurait un peu gâché mon...
Mais est-ce qu'à ce moment-là, l'écriture de ce roman-là était... J'aime pas le terme thérapeutique, bien sûr, mais est-ce que c'était une façon d'aller aussi... pas régler tes comptes avec quelqu'un, mais comment dire, passer au-dessus, puis d'essayer de trouver ta propre voie après avoir fait ce premier roman, je ne sais pas.
Je pense que peut-être inconsciemment, oui, mais moi, à ce moment-là, j'étais vraiment dans... j'avais absolument besoin de lui rendre hommage. Puis ma manière de le faire à moi, c'était de passer par la fiction. C'était pas d'écrire un texte. J'ai écrit quelques petits trucs des fois pour dire pourquoi j'aimais son œuvre et tout ça, mais là, c'était vraiment ma manière à moi de... C'est la même chose qui s'est passée pour ma thèse, sauf que cette fois-là, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai fait une thèse, ce pourquoi je me sentais pas armée à ce moment-là. Mais la même chose avec Dubrovski, j'avais l'impression qu'il fallait rendre justice ou rappeler à des lecteurs l'importance de cette œuvre-là, sa richesse. J'avais l'impression que c'était peut-être pas jugé à sa juste valeur ou... Donc, c'était vraiment un besoin de réparer une injustice, mais modestement, parce qu'après ça, on ne sait pas si on va être lu. Après ça, ça sert à quoi de rendre hommage à quelqu'un si personne ne lit votre hommage, je ne le sais pas, mais on peut essayer.
Je vais revenir tantôt, parce qu'il me semble que c'est peut-être Alia qui de certaine façon, est davantage l'hommage à Aquin. C'est peut-être dans Alia qu'on voit davantage au niveau de la forme, le genre de jeu qu'Aquin aurait fait. Alors que dans Chair d'assaut, j'ai l'impression que, avec le jeu de mots, tu t'inscris dans une autre logique. Mais
il faut quand même que je précise que le titre, c'était pas ça. Le titre, c'était Le Tank. Et parce qu'au même moment, chez l'éditeur, il y avait un autre roman qui sortait qui s'appelait La Tour. Pierre Turgeon m'avait demandé de trouver un autre titre et c'est pas moi qui l'ai trouvé, Chair d'assaut. Mais quand la personne l'a trouvé, j'ai trouvé que c'était très bien. C'était celle qui s'occupait de faire les photographies des auteurs pour cette maison d'édition-là. Puis on était en séance de photos, on discutait, puis elle a eu cette idée-là. Puis je l'ai suggéré à Pierre Turgeon, puis on l'a gardé. Donc c'est même pas...
D'accord.
Ouais, donc,
On t'a fait le coup de Nelly Arcand avec Folle, avec alors qu'elle voulait écrire sur les astres. Et puis après, on voulait absolument avoir un titre aussi accrocheur.
Elle voulait appeler ça Nova, je crois.
Oui.
C'est ça.
Effectivement, sur les astres. Est-ce que tu as un souvenir de ta première nouvelle, la nouvelle avec laquelle tu as gagné...
Pour l'université, le prix d'antichambre?
Oui.
Non. Aucun souvenir. J'ai aucun souvenir. Vraiment, il faudrait que... Je pense qu'ils avaient peut-être fait un recueil. Sérieusement, je ne me rappelle pas du tout. Je me rappelle qu'après, j'en ai publié une chez XYZ. Il y avait un concours de nouvelles. Puis je me rappelle que ça s'appelait « Souvenir de Bob » puis que ça se passait dans les catacombes à Paris. Je me souviens de ça, puis que c'est grâce à cette publication-là que j'avais pu demander une bourse pour écrire un premier roman, à l'époque où c'était quand même beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, d'avoir des bourses, parce que maintenant, c'est le festival du nom, c'est pas grave. ça, je me rappelle, mais celle-là, j'ai aucune idée, je pourrais vraiment pas te dire, c'est fou, mais aucun souvenir.
Et pour Lima Destroy et Robinette Spa, c'est quand même le texte qui détonne dans ta production jusqu'à maintenant, même s'il y avait une suite annoncée. Peux-tu nous dire
qu'est-ce qui m'a pris?
Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce texte-là?
Plusieurs choses. En fait, d'une certaine façon, ça, c'est le même syndrome pour Victoria et le Vagabond. Les gens pensent que ça détonne. Mais pour moi, ça détonne pas. C'est-à-dire que c'est des trucs qui, dans le cas de Lima Destroy, qui est plus humoristique ou qui est plus proche de la parodie ou du pastiche, puis ça, c'est tout à fait moi. Autant que le côté sombre qu'on a pu voir dans Alia ou dans Le Dégoût du Bonheur. Donc pour moi, ça détonne pas. Puis pour moi, chaque roman part d'un désir complètement finalement, je me rends compte qu'ils sont probablement tous très différents les uns des autres, mais les gens semblent avoir identifié une constante. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec... Je ne vais pas être d'accord ou pas, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, je ne le vois pas forcément comme ça, disons. Donc, pour Lima Destroy, c'était quand Emmanuel Akin avait lancé une collection qui s'appelait Le Point G, de littérature érotico-humoristique, en gros. Puis, il m'avait demandé si je n'avais pas envie d'essayer... Et moi, bon, qui suis très pudique, tout ça, j'avais essayé. Bon, c'est vrai que l'érotisme n'est pas le caractère principal de ce roman-là. Je pense que ça doit être un des plus prudes de la collection d'Emmanuel. Et donc, il m'avait demandé d'essayer. J'avais parlé d'une idée de scénario qu'on avait développé avec mon amie Marie-Hélène Panisset lors d'un voyage complètement délirant à Toronto. Je sais plus ce qu'on était. Je pense qu'on était allé porter des pellicules films là-bas à un producteur. Je sais plus, mais en tout cas, c'était un très bon souvenir. Puis on était parti. Sur un délire, on avait inventé des personnages d'espionnes ou d'agentes secrètes du futur, puis on avait inventé ces deux noms-là. Et j'avais raconté ça à Emmanuel, qui m'avait dit « il faut que tu fasses quelque chose avec ça ». Et donc, j'avais écrit ce roman-là. Puis bon, c'est vrai que les gens n'ont pas trop compris ce qui m'était arrivé, mais je m'étais bien amusée, ça c'est certain. Puis donc, c'était venu de là. Puis après, il y avait, comme toujours chez Point de Fuite, un énorme travail sur le manuscrit, sur la langue. Mmh. Mais ça a été, encore une fois, c'est drôle parce que je me rends compte qu'il y a des points communs avec Victoria et le Vagabond. C'est un roman où j'ai plus travaillé le style pour que ça soit, j'allais dire, plus sobre, en tout cas, que ce soit plus effacé. Mmh. Et les gens en ont conclu qu'il y avait moins de style que les autres. Puis je sais qu'avec Victoria, il y a eu aussi pour certaines personnes ces remarques-là que c'était, il y avait moins de style que dans Alia, comme si moins d'effet voulait dire moins de style. Ça, je suis pas d'accord avec ça non plus, mais bon, après ça, quand, encore une fois, les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais donc, pour moi, c'est pas forcément incohérent par rapport à. C'est pas forcément. Par rapport au reste. Mais c'est juste deux tendances que j'ai, puis je passe mon temps à passer d'une à l'autre, je pense. Comme l'autofiction et la fiction, ou l'autobiographie et la fiction, mais finalement, on en parlera peut-être aussi dans Victoria et le Vagabond, il y a plein de trucs autobiographiques, c'est juste que ça paraît moins, parce que les gens pensent que quand il y a « elle », au lieu de « je », ça parle plus, les gens, beaucoup de gens pensent ça, disons. Peut-être que c'est normal, mais bon, bref.
Mais une des choses qui marque, en tout cas dans les deux premiers romans, mais on va le retrouver d'une façon peut-être un peu plus travaillée, je dirais subtile, mais enfin ça va revenir à un autre niveau dans les romans suivants, c'est quand même une certaine tendance à la parodie ou le pastiche, comme si tu voulais d'abord un besoin d'imiter un modèle pour peut-être ensuite passer à autre chose ou t'en dépasser, t'en débarrasser, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose
Mais en fait, ça a été exactement le cas jusqu'à Victoria et le Vagabond. C'est-à-dire qu'avec Victoria et le Vagabond, je me suis un peu donné le droit de partir de rien, si on veut. C'est-à-dire que je suis partie de toutes sortes de faits biographiques. Même si même si c'était moins flagrant, il n'y avait pas de modèle, de grand modèle littéraire à qui je rendais hommage. Là, je me suis lancée dans le vide, c'est le cas de le dire. Donc, puis avec celui que je suis en train d'écrire, c'est pareil. J'essaye de. Puis c'est pas parce qu'il n'y a plus de gens à qui je veux rendre hommage, c'est juste que. Disons que ça s'est fait d'une autre façon. Dans le cas de Dubrovsky, je voulais vraiment... Je l'ai fait dans Alia, de toute façon. Mais j'ai voulu le faire surtout dans ma... rendre justice, ou en tout cas peut-être plus, dans ma thèse. Puis on dirait que le fait d'écrire la thèse, ça a libéré quelque chose. Le fait de m'attaquer à ce type de manuscrit-là, qui est quand même une autre paire de manches qu'un roman, donc c'est ça, puis c'est peut-être aussi une évolution normale, je sais pas, faudrait demander à d'autres écrivains comment ils ont... Donc oui, il y avait vraiment ça jusqu'au moment où... Puis c'est beaucoup Mélanie Vincelette, mon éditrice des deux derniers, qui m'avait fait remarquer cette tendance-là que j'avais, puis ça m'avait beaucoup fait réfléchir. Puis c'est comme ça que ça a commencé avec Victoria et le Vagabond, donc on verra après ce que ça donne.
Tu as eu aussi une expérience, peut-être j'anticipe maintenant, je ne sais pas si c'est le bon moment de poser cette question-là, mais tu as eu une expérience de scénarisation. Oui. Je me souviens, tu as fait un film, tu as scénarisé un film sur Georges Sand.
Sur Georges Sand et Chopin, mais c'était dans une série de documentaires pour une maison de production qui s'appelle Sine qua non Film, qui faisait une série qui s'appelait Musique de chambre, où c'était un truc assez spécial. C'était des documentaires dansés sur des compositeurs. Donc, il y avait la vie du compositeur, puis là, il y avait un extrait où on entendait sa musique et où il y avait de la danse contemporaine. Donc, moi, j'ai écrit celui qui était censé être sur Chopin, mais comme j'avais fait ma maîtrise sur Georges Sand, on s'est servi des extraits d'Histoire de ma vie de Georges Sand pour... C'est Georges Sand, la narratrice, en fait, si je me... Oh, mais ça fait vraiment une éternité, tout ça. C'est Georges Sand qui raconte son histoire avec Chopin, je crois, si je me rappelle bien. Donc oui, ça, il y a eu ça, mais il y a eu justement avec Marilyn Panisset plusieurs projets de courts-métrages qui ont été réalisés, de longs-métrages qui, malheureusement, pour l'instant, bah, c'est que le cinéma, c'est pas facile, C'est même très, très difficile. Donc plusieurs projets de longs-métrages qui ont été subventionnés, beaucoup pour l'écriture, tout ça, puis qui... Une fois arrivé à l'étape d'après, ben pour l'instant, ça a toujours, été ça. Mais Marianne, de son côté, a fait son long métrage, là, ça y est. Mais bon, les projets qu'on avait ensemble, ça c'est pas, je sais pas si ça se fera un jour, on verra, là, si on a envie de se replonger là-dedans ou pas, parce qu'on a toutes les deux fait autre chose depuis. Donc, ça a été une expérience super enrichissante, mais très frustrante en même temps, le cinéma.
Oui. Mais dis-moi, où ça se situe ça, exactement dans ton parcours? Parce que je me souviens pas quand ça a été tourné.
Le Chopin, je pense, c'était vers 97, quelque chose comme ça.
Donc, autour c'était, de 80...
avant le dégoût du bonheur.
Voilà. Oui, oui. Et donc, comme tu dis, c'est au moment où, à la maîtrise, tu avais travaillé sur Georges Sand, qui est déjà un peu ton intérêt pour le biographique.
Oui. Ah, ben, c'était le titre de la maîtrise, c'était un titre super interminable, d'ailleurs, c'était l'Histoire de ma vie de Georges Sand ou le paradoxe de l'autobiographe masqué. Donc, c'était sur, pas les mensonges dans l'autobiographie, mais déjà sur le jeu entre les deux. Ouais. Parce que je parlais du fait que ce qui est très drôle dans l'autobiographie de Georges Sand, c'est qu'elle naît à la page 2500 à peu près. Donc avant ça, c'est l'histoire de ses parents, leurs lettres d'amour qu'elle a réécrites pour que ça marche mieux dans son... Donc j'ai travaillé... Oui, donc c'était déjà... Mais je me rendais pas compte, je pense, à ce moment-là, de la tangente que c'était une route là, que j'allais poursuivre jusqu'à vendredi. Là. Ça se termine vendredi, normalement, à la soutenance de thèse. Donc,
Moi, je t'ai connu, évidemment, après ça. Mais ce qui m'a frappé d'emblée quand tu m'as parlé de ton projet de thèse et où tu en étais dans ton œuvre fictionnelle, c'est à quel point il y a un enchevêtrement constant entre la théorie chez toi, c'est-à-dire ce que tu es allé chercher dans tes études sur Georges Sand, ensuite sur Dubrovski. Ouais. D'ailleurs, le début du projet de thèse était un petit peu plus large que ça. Il y avait Régine Robin, il y avait Proust, il y avait Aquin, il y avait Dubrovski. La première chose à dire, c'était qu'il fallait...
Oui, il fallait choisir.
Il fallait resserrer. Mais bref, cette question du biographique se pose de façon claire à partir de Mémoire de maîtrise et ça se transpose aussi dans la fiction.
Oui.
Ça va m'amener peut-être poser une question qui, je pense, est plus pertinente pour les trois... ce que j'appellerais les trois romans. Hein, j'aime pas employer l'expression de la maturité, mais en tout cas, les romans dans lesquels tu t'es vraiment... dégagé ta propre voix, je dirais. Quel lien tu perçois entre, d'une part, la réflexion théorique et la pratique? Moi, je t'envie beaucoup. Je suis quelqu'un qui enseigne la littérature, je suis quelqu'un qui écrit des essais, je suis quelqu'un qui est très à l'aise pour décortiquer les textes, mais essayer de faire de la fiction, incapable. Je n'arriverai pas à écrire le moindre roman qui aurait de l'allure. Et toi, tu arrives à faire, d'une part, la fiction, la théorie, analyser les textes avec brio, et en même temps, parallèlement, tu arrives à transposer ça à ta façon, dans la fiction. Donc...
Mais je ne sais pas si c'est enviable, parce que je me suis souvent sentie à ma place nulle part à cause de ça. Mais puis c'est un dosage très, très, très difficile. Par exemple, dans le cas de... c'est sûr que les deux ont toujours été liés. Je pourrais difficilement expliquer pourquoi et comment, parce que ça fait partie de moi, on dirait, depuis toujours. Ça a toujours été... Mais par exemple, l'expérience de la thèse a été assez particulière parce que j'ai commencé cette thèse après avoir écrit Le dégoût du bonheur. J'ai eu une critique assassine sur le fait que c'était un roman nombriliste puis qu'on en avait rien à faire de tous ces gens qui se grattaient le nombril, je sais pas quoi. Et donc là, je me suis dit non. Bon, après mon roman était peut-être raté, d'accord, soit. Mais c'est pas vrai que dès qu'on écrit au jeu, c'est plus narcissique que quand on se cache derrière la troisième personne ou je sais pas trop quoi.
Ça peut être aussi bien
et là, c'est André Anacopoulos qui m'a suggéré. Et un autre ami, Carlos Fernandez, qui m'ont suggéré de lire Dubrovski. Et là, j'ai découvert Dubrovski, et là, ça a été, j'allais dire une révélation, c'est plus compliqué que ça, mais... Et là, à ce moment-là, j'ai voulu faire la thèse en réaction à la réception, au malentendu du dégoût du bonheur. Donc là, déjà, c'est un peu tordu de faire une thèse pour répondre à un critique qui se rappellera même, probablement même pas de moi aujourd'hui. Mais bon, j'aurais dû lui envoyer une invitation pour la soutenance, d'ailleurs. Mais bon... Donc là, je commence la thèse pour prouver à l'autre que j'étais pas aussi conne que ce qu'il pensait. Et donc, je commence la thèse. Et là, en faisant la thèse, je me dis, mais j'arrivais pas à m'en sortir, j'avais peur. Puis finalement, j'étais peut-être aussi conne que ce qu'il pensait. Donc, je me dis, je vais faire un roman Je vais faire de la pratique avant de faire la théorie. Donc là, j'ai écrit Alia, qui était, dont je dis souvent, en fait, c'était comme la répétition générale de ma thèse, Alia. Mais bon, donc Alia, ben, comme tu le sais, a beaucoup retardé ma thèse. Ben, beaucoup. Ça a un peu retardé la rédaction parce que, bon, je me débattais. Je pense qu'en fait, c'est une bonne chose parce que j'ai réglé plein de questions préliminaires dans Alia avant de faire la thèse. Et puis, une fois que ça a été terminé, Alia, là, je me suis sentie prête à développer ces questions-là de manière franche, directe, théorique, dans la thèse. Et c'est là que j'ai pu écrire Victoria et le vagabond, qui est où j'étais libérée de l'autofiction, si on peut dire, d'une certaine façon. Donc, c'est très...
C'est clair, chez toi, c'est très imbriqué, mais que tu arrives... C'est un écueil, hein? D'autres se casseraient la gueule complètement. Ferait des bons essais et des romans ratés, ou ferait des bons romans et dirait des inepties au niveau de l'essai. T'es vraiment entre un charib et Sia, et il me semble que tu...
Ah ben merci, c'est
juste... Tu arrives à naviguer entre ces deux...
Je me casse la gueule, mais bon, c'est pas grave.
Mais justement, j'aimerais revenir en arrière, parce que c'est là que vraiment, je pense que ton œuvre débute. Même s'il y a des changements de ton, des changements de style, changements de stratégie, changements de forme, il me semble que c'est avec le dégoût du bonheur, peu importe comment le livre peut avoir été reçu. C'est celui qui est le plus près de l'autofiction. Il y a M. C'est
même
seulement une initiale.
Ça s'appelle.
Oui, même A, à un moment donné. Donc, les signes sont là. Il y a beaucoup d'alcool dans ce roman-là. Le bonheur, évidemment, fait fuir.
Oui.
Mais c'est quand même le roman qui va, paradoxalement, t'imposer une certaine voie. Dans le panorama. Et c'est le roman qui te rapproche le plus, malgré tout, d'une certaine autofiction féminine au Québec. Oui. J'ai toujours que comparé à la France, peut-être le Québec a cette particularité. Mavrikakis, Arcan, Labrèche, toi. Je dis pas c'est une question d'influence, je veux dire qu'il y a presque au même moment une constellation d'écrivaines qui publient à partir de l'année 2000, 2001.
Oui.
Pour qui l'autofiction est le moyen de passer à la fiction.
Oui. Je ne sais pas si c'est le moyen de passer à la fiction. C'est drôle parce que c'est des choses dont on parlait beaucoup avec Nelly, justement Nelly Arcan. C'est la blessure provoquée par un malentendu à la réception qui fait qu'on passe à la troisième personne. Puis je me souviens très bien de la sortie du livre de Nelly qui s'appelait « À ciel ouvert », qui était où elle sortait de l'autofiction, où sa narratrice n'était plus Nelly Arcan. Puis où c'était clair pour elle que c'était « il faut que je tue Nelly ». C'est horrible de dire ça en ce moment. Excusez-moi, c'est un peu... C'est une bonne amie. C'était « je tue Nelly Arcan, j'en peux plus de la porter avec moi, donc je fais ce roman-là ». Et puis après, le roman a eu une... Moi, je l'aime beaucoup. C'est un des romans d'elle que j'ai pas encore lu le dernier, j'ai pas été capable. Mais bon, j'avais beaucoup, beaucoup aimé « À ciel ouvert ». Et après, s'être comme libérée... Elle a fait... elle voulait revenir à un roman au jeu. Après, je sais pas, Paradis...
Oui, c'est au jeu.
Clé en main, si c'est au jeu ou si c'est... Mais revenir au jeu, si j'ai bien compris, c'était pas forcément Nelly Arcan. Je pense que c'était se repermettre d'écrire au jeu en dehors des catégories. Puis c'est drôle parce que on avait un peu la même... cette même réaction toutes les deux, à un moment donné, de dire « je veux échapper à ça pour mieux y réfléchir ».
Par la suite de ton cas, mais pour le bonheur, le dégoût du bonheur, c'est pas ça? Est-ce que tu réagissais à une réception?
C'est-à-dire que non, le dégoût du bonheur a provoqué, dans certains cas, des insultes. Donc, j'ai fait Alia, qui est une espèce de mise en scène de la réception de l'autofiction. Et Nelly, elle a fait Folle. Où aussi il y avait le personnage Nelly Arcan qui vit une histoire d'amour avec un journaliste français qui la démolit. Donc moi, je voyais vraiment des symboles là-dedans, une métaphore de la réception de l'autofiction au Québec ou même par la France, en tout cas. Bref. Et puis après, elle a fait donc À ciel ouvert. Puis moi, j'ai fait Victoria et le vagabond. Donc, dans ma tête, il y avait... C'est drôle parce que, bon, malheureusement, c'est un truc dont j'aurais aimé pouvoir rediscuter avec elle à l'occasion de l'apparition de son dernier, mais malheureusement, je pourrais pas le faire. Mais c'était... On en avait beaucoup parlé de ça, du fait que c'était... Oui, c'est un choix, c'est toujours un choix, mais où il y avait une blessure qui faisait qu'on... ou un malentendu qui a fait qu'on a rejeté le... L'autofiction.
Là, il y a des goûts de bonheur où, effectivement, où tu, là, tu pratiques ce qui est de plus près d'une autofiction classique, si on peut dire. Ça a l'air presque un oxymore de dire ça, mais bon. C'est quand même le texte aussi, il me semble, où tu es le plus près du Berraquin, d'une part. Ben,
dans
t'es en point de fuite.
Oui.
Parce que je pense à l'essai d'Aquin, quand le bonheur d'expression, où il termine le texte, qui est un texte qui semble annoncer le bonheur d'expression, mais qui dit en fait ce qu'on a besoin, c'est un écrivain qui arrivera à dire notre malheur d'expression, plutôt. Mm-hmm. Et dans le dégoût du bonheur, je ne sais pas, c'était probablement pas conscient, mais il me semble que tu poursuis dans ce filon-là.
Oui. Par la fin, le fait que la fin, ça soit apparemment une
fin heureuse. L'ensemble du texte.
Ça se peut, de réfléchir. Oh, parce qu'en même temps, c'est lointain. Oh, c'est lointain. Je sais pas si je me rappelle si bien que ça.
Du bonheur.
Je me rappelle, il y a des flashs, là, mais...
Tu voulais pas trop en parler,
si
de celui-là.
Cas... Non, mais c'est pas que je veux pas en parler, c'est que je l'ai pas relu, en fait. Il faudrait que je le relise, peut-être que ce serait drôle. Mais si c'est le cas, j'en étais vraiment pas consciente. Puis c'est vrai que... Je me souviens quand je l'écrivais, j'essaie de me rappeler. Je me souviens clairement qu'il y avait une réaction à Marie Laberge et à son goût du bonheur. Je me souviens qu'elle en avait parlé, puis que tout le monde cherchait le bonheur, puis que dans la vie, on était tous faits pour le bonheur, puis que j'avais trouvé ça scandaleux. Puis donc, il y avait une certaine réaction à ça, entre autres dans le choix du titre, mais dans le personnage de M aussi.
De M, c'est ça.
Mais il y avait effectivement le besoin d'exorciser quelque chose. Mais comme je dis, moi, je pense que c'est comme ça dans tous les romans que je fais, aussi autobiographiques ou fictionnels qu'ils puissent paraître. Mais je pense que c'était plus assumé dans celui-là parce que je ne savais pas encore comment on peut se casser la gueule quand on fait ça.
Donc, non, mais c'est ça. Pour moi, s'il y a un personnage qui ressemble un peu à Pierre X Magnan ou à Christine dans l'Antiphonaire,
Mais c'est vrai, c'était pas conscient. C'était pas du tout. Ben, c'est peut-être justement quand on veut le moins qu'on rend le plus hommage, je sais pas.
Et c'est à ce moment-là que j'ai
quand
connu...
Quand on s'en rend le moins compte,
Et c'est à ce moment-là que quand tu as rencontré, que tu m'as dit, je veux faire une thèse sur l'autofiction, et tu avais un corpus très vaste, dont Aquin ferait éventuellement partie. Et bon, on a rétréci ça à Dubrovski. Et tu parles d'Alion, on va y venir, mais il me semble que c'est ce roman-là qui...
Qui a un tournant, Je pense que oui, probablement. Mais c'est sûr que moi-même, quand... J'ai plus de souvenirs... j'ai plus de souvenirs de quand on travaillait avec André sur celui-là. Non, mais même j'ai autant de souvenirs de Chair d'assaut. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être plus aux autres de le dire qu'à moi, ça a vraiment commencé, quand c'était les tâtonnements et quand il y a eu... Parce que moi, j'ai toujours l'impression que c'était les tâtonnements jusqu'au dernier, puis que c'est le dernier qui commence quelque chose. Je pense que peut-être beaucoup d'écrivains pensent ça, ou d'artistes, là, en général. Moi, je veux toujours qu'on s'intéresse au plus récent.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut penser comme
Les gens ne sont pas forcément d'accord. Puis c'est vrai que maintenant qu'il y en a 5, je me rends compte que les gens ont leur préféré, puis que ce n'est pas toujours celui que je voudrais, puis que c'est comme ça, puis ce n'est pas grave.
Mais tu n'es pas quand même comme Jacques Poulain, qui déteste toujours son tout dernier roman, à peine terminé, à peine publié, et qui déjà se lance dans l'autre parce que c'est important pour lui de...
Ben, je dirais que je les aime et je les déteste tous également à chaque fois que je les finis, là. Puis j'ai toujours... je suis souvent au moment où les gens le lisent, on est souvent déjà dans autre chose pour se prémunir contre la réception, en fait.
Oui, c'est toujours... Ça revient, ça, c'est intéressant. Il faudrait peut-être tantôt encore revenir à cette question-là de la réception anticipée, basée aussi sur la réception passée, mais la réception anticipée, on dirait que c'est à la fois ton moteur et ce... qu'il faut toujours combattre quelque part ou...
C'est le sujet de ma thèse, finalement.
Oui, parce qu'on a passé de l'autofiction à la question de la dialectique entre l'auteur et le lecteur. Donc, toute cette idée de comment je suis perçu par l'autre.
C'est très aquinien, ça aussi, finalement.
Oui, donc c'est peut-être à ce niveau-là que ça joue. Oui, on peut passer peut-être à Alia, parce que justement, c'est dans ce passage, je dirais, de le dégoût du bonheur à Alia que bien des choses se passent. Évidemment, c'est à ce moment-là que la thèse se met en place aussi, parallèlement. Bizarrement, c'est le roman qui était, et là, tu es passé aussi au Marchand de feuilles, c'est le roman qui tenait le plus de fil à retordre. Pour avoir assisté un peu à la genèse de ce roman, je sais que tu as eu 2 versions au moins, sinon 3.
Sinon 16.
Tu l'as beaucoup, 16, OK. tu nous donneras un peu le feedback sur le travail. Tu as beaucoup travaillé, ton éditeur est allé avec toi aussi pour s'assurer que ça l'avance au niveau du style, au niveau de la forme et tout. Et en même temps, c'est le roman qui s'est retrouvé finaliste au prix des collégiens. Ça, c'est vraiment peut-être le roman charnière, le plus...
au niveau de ma place dans les romans québécois, ouais, c'est à ce moment-là que j'ai l'impression qu'il y a... qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport aux autres fois. Ben, beaucoup à cause du prix des collégiens, ça, on se rend pas compte, mais ça change beaucoup la réception d'un roman, juste même d'être finaliste sans gagner.
Et comme la personne principale est l'auteur d'un récit appelé Autofragmentation, donc là, c'est clair que la question d'autofiction, elle est mise en abîme. On avait dit tantôt l'autofiction jouée, ça, c'est clair dans Les coups du bonheur. Là, une tentative de reprendre ça au second degré, de déjouer. Donc, peux-tu nous parler un peu de la genèse de ce roman-là? Et peut-être par rapport aussi à la thèse, parce que là, vraiment,
c'était imbriqué. Mais c'était vraiment comme les travaux pratiques, puis la théorie. C'est comme quand on fait le permis de conduire, moi qui n'ai même pas mon permis. Si j'ai bien compris, il y a des cours théoriques et des cours pratiques. Bref. Et donc, ça a été assez infernal parce que j'ai fait une première version où il y avait, en fait, qui était deux fois plus longue, où il y avait tout un deuxième, presque, il y avait comme deux romans en fait en un. Un qui est où il y avait une narratrice qui s'appelait Melika et l'autre où la narratrice s'appelait Alia, et chacune parlait de l'autre comme si elle l'avait inventé. Donc Melika aurait écrit la partie sur Alia et Alia aurait écrit puis c'était très je vais me permettre de citer celle qui est devenue l'éditrice de ce roman-là, parce que c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée, qui elle m'avait dit, tu m'avais dit quelque chose comme c'est tellement 1970. Puis c'était vrai, en fait. Il y avait un côté un peu prise de tête, ostentatoire, très qui était intéressant au moment où ça se passait, mais qui est plus... c'est-à-dire que c'est intéressant de s'appuyer sur ces recherches-là et sur tout ce que cette époque-là a permis, mais c'est intéressant aussi de passer à autre chose dans la mesure où c'est plutôt leur rendre hommage... de s'en servir comme tremplin que de les copier. Enfin, bref. Et donc, il y a eu un moment où, donc, Mélanie Vincelette m'avait dit, je pense qu'il y a du travail à faire, tout ça, parce que, il y a eu tout un parcours où j'ai eu beaucoup, beaucoup de refus d'éditeurs. Puis, j'ai pas honte de le dire, pendant un an, c'était des lettres de refus, mais c'est un nombre inimaginable. Et finalement, donc, Mélanie, qui avait accepté... à condition qu'on fasse un certain travail ensemble, ce avec quoi j'étais d'accord. J'avais pris assez de recul à ce moment-là. Puis j'avais André Anacopoulo qui avait lu le manuscrit, parce que j'ai changé de maison d'édition, mais c'était pour ces romans-là, mais c'était pas parce qu'il y avait une brouille avec André Anacopoulo, c'était avec sa bénédiction, si je peux me permettre. Et donc André avait lu le manuscrit, m'avait fait des commentaires, tout ça. Et puis donc, à partir de ces deux points de vue-là, je l'ai beaucoup, beaucoup retravaillé. Et j'ai carrément, je pense que Mélanie s'y attendait pas, j'ai carrément enlevé la moitié de Melika. Je l'ai carrément enlevé. Et puis là, ça a été de reconstruire un truc qui était devenu un peu amputé, puis d'en faire un vrai, une œuvre qui se tienne toute seule. C'est très bizarre parce que c'est comme si je répondais à toutes sortes de questions, comme je disais tout à l'heure, de questions préliminaires par rapport à la thèse. Avec une liberté que je pensais pas pouvoir avoir dans une thèse, ce qui est faux, en fait. Finalement, j'avais beaucoup de préjugés sur ce que c'est qu'écrire une thèse. J'avais l'impression que c'était très scolaire, qu'il n'y avait pas de liberté, que ça allait forcément être très ennuyeux, ce que j'allais faire. Peut-être que ça allait, mais bon. J'ai essayé de me trouver divertissante moi-même, au moins en me relisant, là. C'est toujours un premier pas. Et puis donc, c'est ça. Donc, ça a été le lieu de ça. Puis après, il y a eu cette espèce de surprise, beaucoup, donc, grâce au prix des collégiens, où il y a eu, vous savez comment ça fonctionne, il y a 500 exemplaires qui sont distribués à des collégiens qui après, à des cégepiens, des collégiens qui après... Puis là, il y avait eu des réactions, mais d'une violence chez certains d'entre eux, parce qu'il y en a qui sont venus me voir pour m'en parler, puis c'était... Ça a été difficile, mais en même temps, il y a eu un enthousiasme aussi super étonnant. Mais en même temps, on dit qu'il y a eu plus de retentissement, mais si je me rappelle bien, Le dégoût du bonheur, c'était aussi assez... ça avait assez bien marché, mais... Je sais pas, c'est peut-être par accumulation qu'on a l'impression... qu'on sait plus qui je suis, entre guillemets, depuis Alia, mais au moment du Dégoût du Bonheur, il y avait quand même une très, très bonne couverture de presse. C'était, ça avait quand même assez... je pense que le nombre de ventes était à peu près le même hein, entre les deux, en plus. Mais donc, bref, je pense que c'est plus parce que... puis il y a eu 5 ans entre le Dégoût du Bonheur et Alia, il y a eu 5 ans... où j'ai rien publié, puis peut-être que les gens avaient l'impression que c'était... Il y a eu un effet premier roman, peut-être, avec Alia, mais qui fausse le souvenir qu'on peut avoir de ce que, mon parcours avant, là. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, le Dégoût du Bonheur, c'était quand même... il s'en était passé des choses.
Évidemment, si Melika était restée dans le deuxième, là, l'illusion auto-fictionnelle aurait été encore plus forte que par rapport au premier.
Oui.
Et le fait de garder seulement Alia et le jeu sur Alia.
Alia, alias,
évidemment, c'est toujours un alias de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, en même temps, tu joues sur la question d'auto-fiction, mais tu la déconstruis à un certain niveau. Tu la déjoues à un autre niveau. Et c'est peut-être ça qui est vraiment le... Et ça, et peut-être autre chose qui semble apparaître dans ce roman-là, et encore plus évident dans le suivant, c'est qu'on commence à voir apparaître aussi un procédé qui pourrait être, je ne sais pas si tu veux en parler, du roman à clé. Comme Philippe Solers peut le pratiquer, comme d'autres écrivains, où il y a des personnages, je pense à Dolbecq, on peut tous imaginer qui est derrière ce Dolbecq, fantasmer qui est derrière ce Dolbecq.
Ah, mais il y a quelqu'un, je peux même vous dire qui c'est. Mais personne, je ne sais pas s'il serait connu. Michel Debrouin, il s'appelle. Parce que c'est Henri M. Dolbecq, c'est les lettres de son nom.
Okay.
Oui, puis c'est un jeu qu'on avait ensemble, c'était un ami qui faisait de l'art contemporain, qui en fait encore, je pense, mais on s'est un peu perdu de vue depuis. Et puis, on avait toujours des affrontements très rigolos sur... moi, j'appelais ça la tarte contemporaine, parce que je comprenais pas ce qu'il faisait. Puis donc, Dolbecq est né de cette espèce de défi où on rigolait tous les deux, puis je le mettais en scène dans des circonstances un peu caricaturales, puis lui, il s'en amusait. Donc, donc il y avait déjà ça dans Alia, oui.
Moi qui fantasmais Dantec, j'espérais tellement que c'était Dantec,
mais non.
J'ai fait fausse route.
Non, mais en même temps, on
sent cette volonté d'inscrire un certain roman à clé, mais c'est pas un roman à clé non plus.
C'est un peu de l'ordre de notes pour moi-même. Là. Mm-hmm. C'est comme des blagues que je me fais à moi-même et à 2 ou 3 personnes. C'est-à-dire que je pense que quand j'écris, parce que je ne vais pas parler au 11, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour les autres, ça donne un certain ancrage qui m'est nécessaire, mais qu'après, ce n'est pas nécessaire pour le lecteur. Probablement, c'est quelque chose comme ça. Par exemple, dans Victoria et le Vagabond, l'appartement dans lequel se passe le roman, c'est l'appartement où j'ai habité à Lyon pendant 3 ans, et c'est l'appartement où habitait la femme qui a inspiré le personnage de Victoria, mais dans tous les détails, tellement que les gens qui viennent chez nous, là, j'habite plus là, je viens de déménager, mais qui venaient chez nous étaient
sidérés,
tellement que le médecin au rez-de-chaussée qui s'occupait de cette dame-là a lu le roman, puis a dit « Vous m'avez vraiment posé problème, Milka, parce que maintenant, quand j'ai des souvenirs de Simone, comme ça qu'elle s'appelait la vraie dame, j'arrive plus à savoir si ça vient de votre roman ou de la réalité. » Mais ça, après ça, pour les gens qui ne me connaissent pas, ça n'a aucune importance. Je pense que c'est plutôt un ancrage pour moi pendant que j'écris ces choses-là. Puis plus ça avance, plus ça... C'est le cas avec Victoria. Puis c'est vrai que ça commençait peut-être un petit peu dans Alia, ouais.
Okay.
Mais je pense que c'est vraiment plus un truc qui m'est nécessaire à moi, puis qu'après, peu importe. Donc c'est une sorte de roman à clé, mais dont les clés servent à personne.
Est-ce que tu nous lirais un extrait d'Alia?
D'Alia, on avait entendu.
Est-ce que c'est toujours important qu'on entende un peu la voix de l'auteur?
Je suis hyper timide, là, donc j'ai, en tout cas, la voix de l'auteur.
Et nous dire un peu, quel extrait
Là encore, mes souvenirs ne sont pas super frais. Là, je suis un peu tombée dessus par hasard tout à l'heure parce que je cherchais quelque chose de pas trop long. Puis
t'es arrivée en avion hier soir,
Donc, je suis un peu... Oui, décalage horaire, oui. Ou comme disent les Français, jet lag.
Jet lag.
Alors, donc c'est un extrait où c'est la narratrice Alia qui se parle à elle-même. Il y a toute une série de chapitres qui s'appelle auto-admonestation. Donc il y a numéro 1, numéro 2, je ne sais plus combien il y en a en fait, mais ça c'est le numéro 2 que j'ai choisi. Où en gros, c'est des chapitres où elle s'auto-déprécie à peu près. Mais pour moi, il y avait de l'humour dans ces... Je ne sais pas si ça a été perçu à la lecture, je ne me souviens plus, puis je ne pense pas qu'on m'en ait parlé, mais bon. Donc, c'est un des extraits où elle se sermonne elle-même de manière un peu caricaturalement autodestructrice, à mon avis. Là, vous m'excuserez, je suis pas sûre que je sois une très bonne lectrice de mes propres livres à haute voix. Enfin. Pour toi, parmi les choses vivantes, seul l'art persistait autant que les pierres, précieuses ou non. Les pierres qui, sur des millénaires, changeaient sans mourir. Les pierres d'abord marquées de l'empreinte d'une étrange créature préhistorique marine, puis de celle de la main d'un joaillier digne d'un roman de Balzac, puis de celle de la dame à qui on avait offert la bague dans laquelle la pierre était incrustée. La dame qui, ivre de bonheur grâce à un caillou, le tripotait inlassablement. Et quoi encore, sinon que la pierre, toujours, durait infiniment plus longtemps que les vies qui l'avaient touchée, façonnée, altérée, étudiée, adorée. Et c'est pourquoi, plus que posséder un homme, tu rêvas longtemps de faire des romans de marbre, de roc, d'albâtre, d'onyx, des romans statues, des monuromans. Non, rien ne demeure, te disais-tu, sauf peut-être la sagesse poreuse des artistes, qu'ils se transmettent de siècle en siècle sur leurs ardoises, grimoire dont le sens secret ne peut être déchiffré que par les joailliers et les archéologues fous à venir. Eh bien, il s'en est fallu de peu que tu crèves seule et prétentieuse, enterrée dans un de tes monus romans, lequel aurait été orné d'une bien jolie roman statue, sur laquelle aurait été gravé ton pitoyable refus de tout. Maintenant, tu veux savoir ce que c'est que le bonheur. Tu veux un homme qui t'arrache à tes satanés livres, passé, présent, avenir. Tu veux rencontrer la peau de cet homme que tu ne connais pas encore quand tu te retourneras dans ton lit en dormant. Que ton corps, un jour, connaisse autre chose que le choc froid de l'épiderme contre l'arête dure du livre oublié entre les draps avant de sombrer dans le sommeil.
Merci.
Merci.
On retrouve la figure du bonheur, un critique, oui. Un critique, j'aurais peut-être pas mesquin, mais indisposé, avait osé dire, bon, dans le dégoût du bonheur, il y avait ce dégoût du bonheur, et maintenant on retrouve le bonheur dans
ça, c'est comme une insulte.
Ouais, ouais. Et effectivement, ce même critique qui croyait que tu étais encore tout à fait dans l'autofiction au premier degré, et qui n'avait pas vu tout le jeu, évidemment, sur Alia, les alias, et j'aimerais ça que tu nous lises peut-être une partie
Toutes les alias.
Les alias, moi j'ai toujours trouvé assez...
Alors, c'est un roman qui est très, très fragmenté, puis donc c'est encore notre copine Alia, hein, qui parle d'un rêve qu'elle fait très souvent, un rêve où elle est en prison, en fait. Et donc, je ne me souviens plus si on a gardé dans la version finale deux ou trois versions du rêve, mais en tout cas, ça, c'est la dernière du roman. Cette fois, nous sommes plus... Ça s'appelle Alia au pluriel, le chapitre... comme alias, évidemment. Cette fois, nous sommes plusieurs dans la cellule. Il y a, jouant dans son coin avec une poupée rabougrie et deux ou trois crayons à colorier, Alia, 5 ans, reconnue coupable d'avoir feint une angine pour attirer l'attention de ses parents. Veillant sur elle, retenant mal ses larmes, se trouve Alia, 9 ans, condamnée à perpétuité pour avoir rêvé la nuit qu'un méchant assassinait ses parents. À côté, Alia, 14 ans, coupable d'avoir déjà couché avec un garçon qui ne lui plaisait pas sans y réfléchir, sans y prendre aucun plaisir et sans moyen de contraception. Et puis il y a Alia, 22 ans, qui pleure aussi dans un coin, condamnée, quant à elle, pour alcoolisme et pour avoir adopté tous les autres types de comportements autodestructeurs sur une période prolongée. Le juge a voulu faire d'elle un exemple pour la communauté. Enfin, assise sur le petit tabouret qui est toujours là, au même endroit dans tous mes cauchemars carcéraux, il y a moi, Alia Benfasser, 30 et quelques années, coupable d'avoir toujours dit qu'elle n'a rien fait. Mais cette fois, au lieu de se refermer, la grille de la cellule s'ouvre avec un bruit de quincaillerie. Un homme muni d'un impressionnant trousseau de clés entre et s'assied en face de moi sur le petit lit simple dans lequel nous devons toutes dormir jusqu'à la fin des temps entre Alia, au pluriel. L'homme aux clés est accompagné d'une femme d'une quarantaine d'années visiblement enceinte dont les traits me sont étrangement familiers. Elle s'assied à côté de lui. Même si je n'arrive toujours pas à me rappeler d'où je connais la femme enceinte, il ne me faut pas plus de 15 secondes pour reconnaître son compagnon. Jack McCoy. Pour ceux qui ne connaissent pas Jack McCoy, c'est le personnage principal de la série télé Law & Order, que j'adore, et qui vient tout, en tout cas, bref. Il me sourit avec une intelligence mêlée de pitié. « My dear, Jack McCoy, ce personnage certes admirable que sans nul doute j'adorerais être, n'est qu'un fragment d'imagination de son créateur. Et non, je suis bien plus modestement le comédien qu'il incarne, Sam Waterston, enchanté. » Donc, bref, c'est le début de...
Moi, j'aime beaucoup ce passage parce qu'il y a toutes ces alias qui sont des alias, qui sont toutes la même personne, mais comme on le sait, à différents moments de l'existence, on est le même et on n'est pas le même. Et donc, parler d'autofiction au premier degré, parler de narcissisme, il me semble que tout ça est là et c'est des démanteler quelque part subtilement à l'intérieur du roman, et c'est ça qui moi m'avait l'air tout le plus séduit de ce roman-là.
Ben, c'est-à-dire, oui, c'est exactement ça que je voulais faire, mais le seul truc qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que tu parles de narcissisme, c'est drôle parce que je pense que... oui, peut-être, je suis pas sûre que l'autofiction soit forcément plus narcissique que le roman, et puis je suis pas sûre que ce soit très grave... Après, c'est-à-dire qu'un roman extrêmement narcissique peut, aux yeux de certains lecteurs, être un grand roman. Mais tu sais, un truc tellement narcissique que c'est condamnable, ça peut être un grand roman pour plusieurs lecteurs, alors qu'un roman très modeste peut être... au fond, je pense, moi, j'en suis arrivée au point où je me dis qu'on s'en fout un peu, en fait, que ce soit narcissique ou pas. Je pense que c'est peut-être pas ça le critère le plus...
Moi, ce que je veux dire, c'est que je vois pas du narcissisme
là-dedans. C'est juste que je rebondissais sur ce que tu avais dit, parce que c'est un sujet dont on avait beaucoup parlé déjà, de toute façon, en parlant de Dubrovski, justement, où un des points... une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup dans ma thèse, c'est ça, c'est le fait que, bon, certaines personnes le détestent, et détestent ses romans parce qu'il serait narcissique. Moi, personnellement, je m'en fiche qu'il soit narcissique ou pas. C'est la qualité de ses romans qui m'intéresse, puis ce qu'il en fait. Puis en plus, Dubrovski, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Puis c'est vrai qu'il y a, chez les plus grands spécialistes de son œuvre, une espèce de lien qui est fait entre sa personne et ses livres, où on s'intéresse beaucoup au rapport entre sa vraie vie et comment il la transforme dans ses livres. Puis moi, étrangement, je m'en fiche complètement. Puis bon, ça n'a pas trop l'air de le déranger, mais je suis... de savoir que, par exemple, telle scène où son père le force à jeter un sac plein de chatons à la mère, qui est une scène récurrente qui vient dans ses livres pour les tuer, puis pour faire de lui un homme, en fait, c'est qu'il l'avait forcé à égorger un lapin. C'est un truc qui a été évoqué au colloque Autofiction de Cerisy-Lassalle. Et sincèrement, je comprends pas pourquoi ça a de l'intérêt. Après, bon, c'est chacun son trip, là, mais... Donc moi, c'est vrai qu'en fait, le narcissisme, finalement, ce qui est plus important, c'est ce qui nous amène, ou ce qui l'amène... le créateur ou même le penseur ou même le scientifique à faire, peut-être.
Mais en même temps, dans ce roman-là, tout en joie de certaines conventions de l'autofiction, tu prends congé l'autofiction aussi. Si on considère que Le dégoût du bonheur serait le roman le plus autofictionnel que tu as écrit, là, tu t'en sers, mais en même temps, tu t'éloignes.
Je fais mes adieux.
Et je pense que qu'est-ce qui est frappant aussi, c'est la relation tout à fait... incarné, crédible, entre la narratrice et Dolbecq.
Oui.
Tu crées une autre voix, tu crées une voix masculine vraiment crédible, incarnée, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans Le dégoût du bonheur, et c'est encore plus fort, je pense, dans Le vagabond, Vittorio le vagabond, c'est-à-dire qu'on va vraiment assister à la naissance de d'autres voix incarnées dans d'autres corps, et qui vont entrer en relation, en conflit avec la narratrice, qui est aussi remise en question par cette autre voix. Je sais pas si...
Oui, ben, c'est-à-dire que dans Alia, c'est clairement ça, c'est qu'il y a des voix qui servent à faire... C'est le grand truc, je pense, que les détracteurs de l'autofiction comprennent pas. C'est comme si on disait que dans telle pièce de Molière, il y a un personnage qui est le porte-voix de Molière, puis que ce que Molière pense, c'est dans la bouche de ce personnage-là parce qu'il lui ressemble. Alors que la vérité se trouve au croisement de toutes ces voix-là. Puis justement, il y a... j'ai un blanc. C'est Wolfgang Iser, c'est ça, qui parlait du rapport entre les différentes positions dans un texte qui donne, en quelque part, d'une certaine façon, le sens ou la voix de l'écrivain, si on veut. Si on peut dire qu'il y a une telle chose qui existe. Puis c'est vrai que dans Alia, j'ai vraiment voulu faire ça. Après, bon, est-ce que c'est réussi ou pas, c'est peut-être pas à moi d'en juger, mais c'est vrai qu'il y avait ce que j'appellerais un contrepoint. Puis dans Victoria, vagabond, c'est que des voix qui sont pas la mienne, il n'y a pas de jeu, mais en même temps, elles ont tout un rapport avec moi, et je me reconnais dans chacun des personnages comme ils sont différents de moi. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai fini par réussir à formuler grâce à la thèse. Cette idée qu'il faudrait que les gens se sortent de la tête que quand on écrit un roman, il y a un personnage, celui qui nous ressemble le plus, c'est lui qui parle à notre place. Même le narrateur proustien ne parle pas à la place de Proust. C'est plus compliqué que ça. En tout cas, je suis convaincue de ça. Après, peut-être qu'il y aura des auteurs qui travaillent différemment, mais le type d'autofiction qui m'intéresse, en général, travaille là-dessus. Puis ça, c'est la source d'un grand malentendu, je pense, avec les lecteurs.
Là, on arrive peut-être, enfin, au dernier roman publié jusqu'à maintenant, qui est peut-être celui qui a qui a provoqué le plus de malentendus au niveau de sa réception, qui est le plus équivoque. D'une part, il a été bien reçu par la critique.
Ouais.
La critique, ça s'est très bien passé.
Ouais.
Par contre, un certain lectorat qui t'était fidèle, qui voulait que tu persistes dans l'autofiction, voulait absolument te caser dans cette catégorie, ont été déroutés.
On n'a pas suivi pour
l'instant.
On
pensait que tu faisais du roman traditionnel tout à coup, que tu avais décidé de faire du roman conventionnel, alors que, me semble-t-il, il y a tout un travail sur la forme, la structure, qui n'est peut-être pas apparent au premier degré, mais qui est là.
Ben, c'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est un roman à l'américaine. J'ai relu récemment un roman dont je me suis rendu compte qu'il y avait une beaucoup plus grande influence sur moi que je le croyais, qui s'appelle Lunar Park, de Bret Easton Ellis, où il y a un jeu sur l'autofiction aussi, là, mais où il y a un jeu sur la structure. Puis bon, je sais pas comment dire, il y a une liberté chez les Américains, surtout dans leur littérature contemporaine ou assez récente, où on boude pas le plaisir de raconter une bonne histoire divertissante ou de vouloir faire ça. Non, pas on boude pas. C'est-à-dire que le fait qu'en apparence ce soit divertissant, ça se veuille divertissant, n'exclut pas un gros travail sur le style et sur la forme. Et puis, Victoria, c'était un peu ça. C'est-à-dire que j'avais envie... c'est un truc qu'on me disait, qu'on m'avait beaucoup dit quand j'écrivais des nouvelles au début, que j'avais un talent, guillemets, de conteuse. Puis que je l'exploitais pas assez. Certaines personnes m'ont dit que je l'exploitais pas assez dans mes romans qui étaient un peu trop intello, je sais pas quoi. Puis c'est vrai qu'avec Victoria et le Vagabond, j'ai eu envie de renouer avec le plaisir que j'ai à raconter des histoires, mais le côté la théoricienne en moi voulait pas non plus baisser les bras. Sauf que je voulais vraiment faire un roman où le travail sur le style et sur la structure était moins ostentatoire. C'était moins regarder comme je suis universitaire ou je sais pas quoi. Et je pense que oui, il y a eu un malentendu. Je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu avec certains lecteurs, parce qu'il y a eu des personnes qui m'ont carrément dit c'est moins, c'est plus léger que tes autres romans, alors que pour moi c'est pas du tout le cas. Pourquoi t'as fait un roman si traditionnel, alors que pour moi, en plus qu'il soit traditionnel ou non, personnellement je m'en fiche un peu. Moi, peut-être qu'il l'est, peut-être que oui, ça m'importe pas vraiment, c'est juste qu'il est aussi travaillé que les autres, disons. Mais je me suis moins préoccupée que de... Disons que j'ai moins, en guillemets, assuré mes arrières, j'ai moins eu ces élans que j'avais parfois de prendre le lecteur par la main pour lui montrer que je savais ce que je faisais, puis je me suis dit, on verra bien qui comprend, puis qui comprend pas, puis c'était un risque... Je pense qu'il fallait absolument que je prenne. Puis ça a eu les conséquences que ça a eu. Mais puis sur le coup, ce malentendu-là dans certaines personnes, la réaction que certaines personnes ont eue m'a, oui, effectivement, beaucoup déçue. Puis après, je suis passée à autre chose un peu depuis. Puis il y a quand même des choses beaucoup plus graves dans la vie, là, dont le sujet du prochain roman que je suis en train d'écrire. Je pense que c'est peut-être, cette histoire de catégorie dans laquelle j'étais. Mais je m'en doutais, quand j'ai écrit Victoria et le Vagabond, qu'il y a des gens qui n'auraient pas envie de suivre. Puis je me suis dit, mais en même temps, la personne avec qui je vais être coincée toute ma vie, c'est moi. Donc, ce serait comme le fun que j'aie du plaisir en écrivant. Ça pourrait être une idée.
Est-ce que t'es arrivé la même chose un peu que Nelly Arcand quand elle est passée à, soi-disant, le vrai roman, à ciel ouvert, et que ceux qui l'avaient campé dans l'autofiction voulaient la garder là, et que tout à coup était dérouté, puis fait effectivement. Alors qu'il y a bien des choses dans ce roman-là. Le biographique est toujours là, à l'arrière-plan. Ça se passe à Lyon, c'est là que tu habites maintenant.
C'est une dame que je connais.
Victoria, j'ai vu l'appartement et tout, je sais que cette personne-là a eu un rôle important. Tu l'as complètement transposé. C'est le plus polyphonique de tes romans. Il y a vraiment avec des trames narratives parallèles, mais il y a des voix, c'est pas justement des voix, c'est des corps incarnés, je dirais. Il y a les deux vieilles qui sont incroyables à la fin, les deux vieilles qui se crêpent le chignon, là, mais en fait qui finit par quand même être complice. Il y a Charlie Chaplin qui apparaît tout à coup.
Il y avait un hommage à Chaplin, je m'en sors pas finalement.
Tu aurais pu te casser la gueule avec Charlie Chaplin, mais
dans le prochain, il y a encore un hommage à quelqu'un.
D'abord, j'aimerais que tu nous lises un extrait, peut-être.
OK, justement, je voulais lire un extrait, parce que j'y ai pensé à ça, qui est strictement autobiographique. Mais vraiment, sauf que la personne qui a vécu ce que je vais décrire, c'est pas moi, c'est mon mari, en fait. Donc c'est un peu flyé, je sais, mais bon, vous allez comprendre. C'est-à-dire que c'est la toute fin du roman, puis c'est Victoria est un personnage, une femme de 92 ans qui devient super amie avec un acteur ultra célèbre qui devient son voisin à l'occasion d'un tournage de film à Lyon. Et ça se passe à un moment où elle est hospitalisée parce qu'elle a eu une attaque, et cet acteur-là qui s'appelle Peter Kellman assiste au dernier moment de sa vie avec Wallace Wilson, qui est une autre personne qui a eu un rôle important dans la vie de cette vieille dame. Je vais devoir recommencer pour que ce soit pas trop... Alors, environ 2 semaines plus tard, vous imaginez le contexte à peu près. Environ 2 semaines plus tard, Wallace et Peter, épuisés, passent la soirée à l'appartement de la rue Diderot à boire des canons de villageoise à la santé de Victoria. La villageoise, c'est une sorte d'imitation de vin qui se trouve en France dans des récipients en plastique de 2 litres et qui est absolument dégueulasse. C'est très utile pour nettoyer les tuyaux. Alors, donc, après avoir été dans un sommeil médicamenteux et dans un mutisme total pendant 10 jours, elle s'est remise à parler et est même arrivée à bouger les orteils du pied gauche. Wallace et Peter, donc, trinquent, hilar, euphorique, en disant que c'est bien elle, ça. Surprendre tout le monde juste au moment où ils allaient baisser les bras. Le choc est donc doublement douloureux quand ils la trouvent le lendemain, étendue sur son lit avec la bouche ouverte, dans un état presque catatonique. Ses paupières sont mi-closes sur des yeux révulsés et de sa bouche ouverte sort un râle déchiré. « Elle n'est plus vraiment avec nous », leur dit l'infirmière. « Nous avons augmenté la morphine. Maintenant, on attend, on la laisse partir, il n'y a rien d'autre à faire. » Peter a une curieuse réaction, une de ses réactions excessives. Il se précipite au chevet de Victoria, se penche sur elle et étouffe ses sanglots dans ses cheveux, tenant sa joue, lui chuchotant d'une voix étranglée « Ma belle Victoria, réveille-toi, ma belle Victoria ». Wallace s'approche et pose la main sur son épaule, mais Peter insiste. « Victoria, je sais que tu ne peux pas parler. On est là, Victoria, on est là avec toi, Wallace et moi. On t'aime, Victoria. Si tu nous comprends, cligne des yeux, d'accord ?» Et alors, avec une énergie folle, toute concentrée dans 2 petites paupières épuisées, elle ferme puis rouvre les yeux. Ce moment, Peter et Wallace ne l'oublieront jamais. Et lorsqu'avec le recul, l'un ou l'autre se demandera si, au fond, ils n'ont pas imaginé tout cela, si Victoria n'a pas à ce moment-là fermé les yeux par hasard, il leur suffira de se rappeler toute l'énergie éperdue qu'il y avait dans ce geste pour savoir qu'ils ne se trompaient pas. Il y avait dans ce dernier battement de cils à eux adressé toute la rage de vivre de Victoria Griff. Et donc, en gros, cette scène-là a eu lieu, mais Wallace Wilson, c'était moi. Peter Kellman, c'était mon mari, et Victoria, c'était cette dame qu'on a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. C'est strictement autobiographique. Et très narcissique, peut-être.
Mais il y a le style. Il y a le travail du style qui fait en sorte que cette page-là, je pense qu'une fois qu'on l'a lue, elle est, elle est émouvante. Elle reste émouvante, je pense, après, quand on la relit, quand on la entend. Donc, tout le travail du style, et que peut-être ça, la critique n'a pas suffisamment, à mon avis en tout cas, relevé, qui montre que vraiment, effectivement, c'est pas seulement de créer une intrigue très bien fignolée avec les personnages, mais il y a tout le travail de l'écriture. Il faut dire que les critiques sont un peu plus rapides dans leur travail, et on en a que pour l'intrigue, que pour évidemment, au Québec, on en a que pour les cris du cœur, l'authenticité. C'est vrai, c'est criant de vérité, etc. Donc, tout ça doit être perceptible au premier degré. Et de voir le travail de l'écriture sur le style, ça, c'est peut-être un peu moins apprécié. Là,
c'est ce que j'allais dire. Je pense que d'une part, je l'ai travaillé beaucoup pour dans le sens de la sobriété, disons, dans la direction, si on veut, de la sobriété. Puis ça a été un travail de fou qui peut-être se voit pas tant que ça à la lecture, je le sais pas, parce que c'était fait justement pour que ça soit le plus discret possible, disons, le plus discret possible. Je pense que c'est le meilleur mot. Mais j'allais dire exactement ce que tu viens de dire. Le problème avec la majorité des critiques, je sais pas comment dire, des médias culturels, je sais pas comment appeler ça, c'est qu'il y a très peu question de style de toute façon. Et encore moins quand c'est pas un style très tonitruant ou très voyant.
Criant
de vérité.
Etc. Oui.
Donc, moi, j'ai rien contre les styles très foisonnants, mais bon, c'est pas ça que j'avais envie de faire. Mais c'est vrai que c'est malheureusement, c'est de moins en moins abordée maintenant dans les critiques. Puis c'est vrai, c'est en général un résumé de l'intrigue, une description des personnages comme s'ils existaient vraiment. Mmh. Puis c'est à peu près ça, je pense, malheureusement. Mais enfin, c'est... je ne vais pas généraliser parce qu'il y a quand même des bonnes plumes là en ce moment. Mais c'est vrai que le style, on n'en entend pas beaucoup parler.
Autre chose de ce roman-là qui m'avait frappé quand tu m'en parlais, avant même qu'il sorte, donc quand tu avais l'idée de ce roman-là, mm-hmm. C'est la trame sociale aussi.
Oui.
Je ne sais pas si c'est à cause de Lyon, en France, la condition des ouvrières de la soie, si je me souviens bien.
Oui, oui, oui.
Et donc ça, c'est assez nouveau aussi dans ton œuvre, la dimension sociale.
Oui.
Qui, elle a beau être à l'arrière-plan, mais elle est quand même là et elle informe, elle informe l'œuvre, elle apporte autre chose que tout simplement
l'intimité
ou le roman, disons, psychologique.
Oui, ben ça, c'était aussi juste un désir de... Je pense que c'est encore une fois l'influence de ce satané roman américain que j'aime tant. Mais c'est... Non, puis je pense que c'est difficile à expliquer parce que c'est juste un désir qui est venu à un moment donné d'ouvrir, de sortir des romans qui se passent entre trois personnages et leurs déchirures. Pas que j'ai rien contre ça, mais moi, je pense que j'avais envie d'ouvrir à autre chose. Puis il y avait une sorte de défi aussi d'intégrer une... Parce que l'autre chose qui se remarque peut-être pas forcément à la lecture, mais c'est qu'il y a eu un an et demi de recherche intensive sur le cinéma de Chaplin, sur l'histoire des ouvriers à Lyon, sur les ouvriers de la soie, sur la Seconde Guerre mondiale, sur sur la ségrégation aux États-Unis, qui je voulais pas du tout faire. C'est-à-dire que ça aurait été... j'aurais pu mieux me défendre, peut-être, si j'avais mis des passages. En passant, nous saurons que les ouvriers... Mais je voulais pas, justement, faire ça. Je voulais pas faire une espèce d'étalage de la recherche que j'avais faite. Donc, peut-être que j'ai mal dosé ou peut-être que... Je sais pas.
Mais
en tout cas, j'avais envie de faire ça, oui. J'avais envie de... Oui, oui. Puis c'est drôle parce que c'est encore un truc qui correspondait avec une autre époque de ma thèse où j'ai été chercheur, entre guillemets, mais pour faire un roman et non chercheur pour faire.
Mais
tu
n'as pas donné non plus dans le roman historique, qui est une autre veine qui est très populaire au Québec en ce moment. Tu aurais pu faire une espèce de roman documentaire.
Ça, encore une fois, dans l'antichambre.
Ouais, toujours dans l'antichambre.
On aurait dû mettre ça comme titre à la rencontre.
Bon, mais d'accord. Alors, avant de passer aux questions de la salle, j'aimerais quand même que tu nous parles, si tu veux bien, tes projets actuels. Il faut peut-être mentionner que depuis Victoria le Vagabond, il y a une thèse déposée qui sera défendue bientôt. Donc, on va passer à autre chose aussi. C'est-à-dire que tout le travail sur l'autofiction au niveau théorique va être réglé vendredi. Il y a un merveilleux petit poupon, Ismaël, qui, évidemment, Moby Dick arrive au galop. La littérature est toujours à l'horizon. Alors, sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu as un autre roman chantier? Est-ce que tu peux nous en parler, en lire un extrait éventuellement?
J'en ai apporté un petit extrait, mais en avertissant tout le monde que peut-être que ça sera pas dans la version finale, peut-être qu'il y aura pas de version finale, peut-être c'est juste ce que je suis en train d'écrire en ce moment. J'avais envie de le lire un peu parce que c'est un hommage à quelqu'un, à Nelly Arcan, qui était une très bonne amie, puis qui est morte, comme vous le savez, en septembre. Donc c'était un peu une manière de penser à elle. C'est la première fois que je reviens à Montréal depuis qu'elle est morte aussi, donc c'est un peu un retour difficile par certains aspects, parce que j'ai plein de souvenirs de plein d'endroits où je suis allée avec elle. Et donc, en fait, ça a tout simplement commencé parce qu'il y a eu des moments de tristesse insupportables depuis le 24 septembre dernier. Puis à partir de... Depuis Noël, en fait, depuis la veille de Noël, j'ai commencé à écrire des... J'avais une idée, je voulais écrire un roman sur le monde de la musique, je voulais... C'est un autre truc qui revient souvent dans mes livres, mais qui a peut-être été moins mentionné. Le personnage public de l'artiste, comment les malentendus autour de ça, etc., etc. Bref, et les conséquences que ça peut avoir, tout ça. Mais je savais pas encore, c'était... Bon, j'avais des idées, j'avais même un plan, mais le personnage d'artiste... obsédant, en guillemets, qui allait être au milieu de l'histoire. Je savais pas du tout qui ça serait, je savais rien. Je savais que je voulais que ce soit quelqu'un du milieu de la musique pop. C'est un milieu que j'adore et qui me fascine et que je voulais défendre peut-être aussi un peu. Encore un autre hommage. Et donc, j'ai commencé à écrire des fragments sur une femme, une artiste du monde de la musique qui s'appelle Nora Jean Silver, comme Norma Jean Baker un peu, qui est un pseudonyme d'une personne qui s'appelle Nora Silverman et qui est une espèce de star de la musique qui a écrit des espèces d'albums concept autobiographico, je sais pas quoi, et qui est morte, qui s'est suicidée. Et puis bon, c'est vu, tout ça vu par une de ses amies qui est littéralement, qui est hantée par cette amie-là. Elle est journaliste et écrit sur la fameuse Nora Jeanne Silver. Donc c'est déjà un rapport assez particulier entre les deux filles. Et donc j'ai aucune idée après, est-ce que c'est vraiment une écriture de deuil là, c'est ça me fait du bien, mais en même temps c'est pas juste j'énonce pas simplement ma peine, j'essaie d'en faire une métaphore, de créer quelque chose avec. Évidemment après ça il y a 10 pages à peu près qui ont été écrites. Est-ce que ça va devenir quelque chose ou pas, on verra.
As-tu un titre de travail ou...
Oui, le titre c'est Nora Jeanne Silver a emporté tous ses secrets pour l'instant. Après,
on verra.
Disons que c'est celui qui est venu spontanément. Et après, c'est peut-être beaucoup trop long. C'est peut-être, je sais pas, on verra. Mm. On verra si je le termine d'abord. Mm. Mais bon, disons que c'est peut-être pour donner une idée de ce que je fais en même temps. Puis c'est surtout pour être avec Nelly, entre guillemets, d'une certaine façon. Peut-être en lisant un petit extrait, parce qu'elle me manque beaucoup. Par contre, j'ai pas mis mes lunettes tout à l'heure pour lire. C'est pour ça que c'était bizarre. Alors, quand ça... Donc, c'est pas aussi au jeu, mais c'est drôle parce que c'est un peu la démarche qu'elle semble avoir faite dans son roman que j'ai pas encore eu le courage de lire, mais c'est un jeu qui est pas autobiographique, c'est un jeu fictionnel. Quand ça... oui et non. Non, mais dans le sens où c'est jamais totalement fictionnel, ni jamais totalement autobiographique, mais disons que c'est pas de l'autofiction, elle s'appellera pas ni Mélika, ni Calimée, ni Likamé, ni rien de ça. Ni tout, rien de tout ça. Alors, quand ça a fait pile 3 mois que Nora est morte, je me suis acheté un chapeau noir, une sorte de fedora, comme ceux qu'elle portait et dont je trouvais qu'il lui donnait l'air vulgaire. J'ai porté ce chapeau toute une journée, alors que le climat ne s'y prêtait absolument pas. J'ai marché de longues heures dans les rues de la ville et je ne sais comment dire, mais j'ai compris pourquoi Nora les arborait, ces couvre-chefs pour moi si extravagants et ce qu'ils lui apportaient. L'impression d'être la star d'un cinéma muet, splendide, désuet et lumineux. Le sentiment d'être aussi tragédienne, pathétique et immuable que ce personnage de Sunset Boulevard que nous aimions tant, Norma Desmond, idole déchue dont nous nous plaisions à répéter les paroles célèbres. Ce n'est pas moi qui ne suis plus grande, ce sont les films qui sont devenus petits. Je portais donc ce chapeau en l'honneur de Nora, je marchais, je pleurais, le soleil brillait d'une telle force contre l'azur parsemé de nuages trop blancs et trop cotonneux pour être vrai. On aurait dit que dans le ciel ça criait, que ça crissait, que ça faisait pour les yeux le bruit des ongles sur une ardoise. Dans ses chansons, Nora se servait souvent des phénomènes météorologiques pour illustrer sa rage et son désespoir, à l'instar des romantiques. Mais ça, personne n'en parlait jamais, tous étant trop occupés à comparer le personnage de ses chansons et ce qu'il s'imaginait être sa personne. Nul ne parlait jamais de l'art de Nora Jeanne Silver. On n'en avait que pour la femme publique, tellement qu'on a fini par la pousser à bout. Aujourd'hui, en ce 24 décembre 2009, où un printemps intempestif et malvenu fait mentir le calendrier, et où il fait trop beau pour que cela soit vrai, j'ai marché pour Nora en portant un chapeau qu'elle aurait porté, et dont j'aurais pensé qu'il lui donnait l'air vulgaire, et je me suis sentie belle, ainsi vêtue de son souvenir. J'ai pris conscience rétrospectivement de mon propre attendrissement devant son style vestimentaire qui n'avait rien pour me plaire, qui s'éloignait tant du mien, mais qui était tellement elle. J'ai sauté un extrait, je vais à la fin de ce chapitre. Aujourd'hui, Nora est morte et je dois me résoudre à la prendre pour un chapeau. Je dois me persuader, comme une conne que je suis, qu'il est possible, crédible, imaginable, qu'une âme aussi noble que la sienne puisse s'abaisser à s'incarner dans un appendice aussi ridicule et à commander au soleil et au cumulus de crier, de crisser dans le ciel pour dire à son amie « Alice, je suis avec toi. N'essaie pas de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Porte-moi sur ta tête, revêt-toi de mon souvenir, raconte-leur mon histoire. » So be it, Nora Jeanne Silver. Je vais essayer, puisque tu me le demandes avec autant d'insistance, je vais essayer de leur dire à cette bande de pervers bien-pensants comment ils t'ont suicidé.
Pour l'instant. Merci. Merci, Mélika, pour cette, je dirais, pour cette authenticité, ce serait presque t'insulter, pour cette générosité qui est toujours là au rendez-vous. Alors, la parole est à vous. Si vous avez des commentaires, des questions... Il faudrait s'adresser par contre au micro parce que la rencontre elle est captée pour Radio Spirale. Et si vous parlez de votre place, c'est pas nécessairement qu'on va vous entendre sur. Ah oui, allez-y.
Alors bonsoir tout le monde, merci infiniment pour votre superbe présentation.
Merci.
Non, c'est très très important. Évidemment, je n'irai pas dans la littérature au sens littéral du terme, sans jouer avec les mots. Ma question, elle est beaucoup plus, je voudrais dire, sociale, plus internationale. Où est-ce que vous vous placez, si j'ose dire? Est-ce que vous êtes plus montréalaise, plus bizertoise, plus lyonnaise? Attention à la réponse. Hein.
Oui, mais là, je ne sais plus. Mais bon, je pense que je suis principalement montréalaise. C'est-à-dire que je suis née au Saguenay, je suis allée souvent quand j'étais petite, tout ça, une partie de ma famille est là-bas, mais j'ai grandi ici. Je pense que même quand je vis à Lyon, où ça commence à être un peu chez moi, je suis encore montréalaise. Mais en même temps, quand je reviens ici, c'est devenu très étrange parce que c'est à la fois instantanément chez moi et plus chez moi. C'est extrêmement bizarre, c'est assez douloureux en fait, puis on peut pas s'en sortir. On s'en sort jamais, je pense. Donc c'est très bizarre parce que là j'ai un enfant qui est français, je suis maintenant en minorité chez moi parce qu'il y a deux français. Et donc je pense qu'il va falloir que je demande la citoyenneté bientôt parce que c'est juste plus possible. Mais donc c'est ça, et je veux que ce fils-là, il est d'ailleurs ici avec nous là, avec mon mari et moi, je veux que ce fils-là connaisse le pays de sa mère, mais en même temps c'est pas, pour l'instant c'est pas son pays hein, c'est le pays de sa mère. Je sais pas si un jour on viendra vivre ici. Pour l'instant, il est tout petit, puis il y a des choses qui sont engagées là-bas. Donc pour l'instant, c'est là-bas que ça se passe. Mais je pense que malheureusement, je suis condamnée à ne plus jamais me sentir chez moi nulle part. Puis il y a une éternelle déchirure parce que j'ai laissé derrière moi des choses, des personnes qui me manquent énormément là-bas, ici. Mais là-bas, j'ai noué des liens. Si je reviens, ça va être encore une autre déchirure. Donc là, je suis un peu foutue, là. Mais... Donc, je sais pas. Je pense que je serai toujours montréalaise et fière de l'être, d'une certaine façon. Il y a peut-être mais maintenant, je vis, en fait, à Villeurbanne. Il y a une distinction parce que c'est, en quelque sorte, une banlieue de Lyon. Je sais pas comment l'expliquer. C'est en périphérie de Lyon. Non, c'est même pas. Ça fait partie du Grand Lyon. Mais c'est pas la ville de Lyon. Je sais pas à quoi on pourrait le comparer ici. Ouais, sauf que Villeurbanne, disons que c'est une espèce de, c'est une ancienne banlieue pauvre. Au départ, c'était presque que des HLM, puis c'est devenu un peu, là, c'est tout très mélangé, autant au niveau ethnique que les classes sociales, ce qui me plaît énormément parce que ça me fait penser à Montréal. Donc là, je casse les oreilles à tous mes amis français en leur disant, je me sens tellement chez moi à Villeurbanne, c'est, parce que bon, je vivais dans un quartier à Lyon qui est devenu très bobo, très blanc, très. Puis je me rendais pas compte à ce moment-là, mais je me rends compte parce que maintenant je vis à Villeurbanne que ça me manquait en fait le cosmopolitisme et l'espèce de brassage.
Donc tu t'es arrangé de partir à la Croix-Rousse.
Oui, c'est ça. La Croix-Rousse qui était un quartier ouvrier mais qui est devenu un quartier bobo.
Ça. Ouais. Mais ton éditeur est toujours à Montréal.
Oui. Mais je suis toujours déchirée. Mais c'est la vie. Ça. Hein. C'est la vie.
T'as un bébé en France, mais les autres
bébés sont ici. Pour l'instant, c'est vraiment ça. Puis on verra ensemble après si on a envie de tendre. Ben, c'est compliqué, hein, d'avoir une coédition avec la France parce que il y a toutes sortes, malheureusement, comme dans plein de domaine, entre autres le cinéma, il y a des impératifs commerciaux de chiffres absolument assassins pour tout un versant de la littérature, comme c'est le cas pour tout un versant du cinéma québécois. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, déjà, un des premiers critères pour qu'une coédition soit possible, c'est un certain nombre de ventes. Puis moi, je suis pas de ce jeu, je suis pas de cette catégorie-là, puis je m'en fiche, hein, c'est pas que ça me fait de la peine, mais bon, c'est... Je pense que chaque auteur a comme ses interlocuteurs, puis moi, leur nombre pour l'instant est pas... Mais bon, on verra après, ça peut évoluer. Mais c'est pas grave, ça, à la limite. Je m'en fiche, ça peut changer, on verra. Mais bon, on y travaille, là, on réfléchit à tout ça.
D'autres questions, commentaires? Oui, André?
Moi, je suis pas une littéraire, donc je peux pas faire poser de questions.
Elle est trop modeste, parce que ça a été mon éditrice pendant des années.
Parce que je veux juste faire un commentaire, c'est que j'ai trouvé cette causerie très intéressante parce que on a le sentiment d'être dans l'atelier, en quelque sorte, de l'écrivain. Et même si j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de propos subjectifs, notamment cette notion d'autofiction me paraît assez subjective, Je me permets de dire que j'ai beaucoup aimé cette causerie, Mélika.
Merci, merci beaucoup. Mais la notion d'autofiction, juste pour réagir à ce qu'André dit, qui est très juste, et je pense que c'est une des premières phrases de ma thèse, que l'autofiction est un écueil théorique, c'est-à-dire que il y a je sais pas combien de définitions, ça change avec le temps. Même Dubrovsky lui-même, qui a créé le mot, d'une époque à l'autre, change de définition. Donc, moi, quand je parle d'autofiction, je pense à un certain groupement de textes où l'auteur porte le même nom que le narrateur, ou à peu près, où il y a une certaine mise en abîme, en gros. Par économie, mais c'est vrai que je commence à me demander, en plus après avoir passé 10 jours enfermée à Cerisy-la-Salle dans un colloque où il y avait tous les plus grands spécialistes d'Europe qui s'arrachaient les cheveux sur la question, puis à la fin on n'avait toujours pas trouvé la réponse, donc c'est vous dire que...
D'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, ça sert autour d'un verre.
Oui, ça pourrait.
Alors, je remercie encore Mélika pour
la
superbe générosité.
Merci à tout le monde d'être venu assister.